Bien, alors aujourd'hui, c'est Pessah que nous fêtons, et plus précisément la fête des azimes. Parce que souvent, quand on pense à Pâques, ben naturellement, la première des idées qui nous vient, c'est la sortie d'Égypte, le sacrifice de l'agneau, le sang qui est mis sur le linteau des portes, c'est la sortie précipitée du pays d'Égypte. Donc, Pessah, c'est une fête. C'est surtout le repas qui commémore la sortie d'Égypte et le sacrifice de l'agneau qui a permis à tout un peuple d'être préservé alors qu'une terrible malédiction descendait sur l'Égypte. Donc, je rappelle ce que ça veut dire Pessah. Pessah, c'est passer par-dessus. C'est la dixième plaie d'Égypte, c'était la mort de tous les premiers-nés. Et donc, le Seigneur avait donné un ordre à son peuple, c'était de mettre le sang d'un agneau sur les linteaux. Ainsi, lorsque l'ange de l'Éternel passerait pour frapper tous les premiers-nés d'Égypte, il épargnerait la maison de ceux qui auront cru. Donc, il y a déjà un enseignement dans ce simple geste, c'est... Les Juifs, quand ils étaient en Égypte, n'avaient pas encore de culture et d'enseignement derrière eux. Parce qu'aujourd'hui, avec du recul, naturellement, on se dit ils ont suivi un ordre, ils ont suivi Moïse parce qu'ils suivaient la loi. Pas du tout. Il ne faut pas oublier que pendant presque 4 siècles, ils étaient dans un pays où tout était contraire à ce qu'ils allaient, dans le futur, devoir appliquer dans leur existence. Mais là, jusqu'à présent, à part l'histoire des patriarches, les relations qu'ils avaient avec l'Éternel étaient très limitées. C'était que le souvenir des promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était que le souvenir d'une alliance qui a été établie entre un arrière-arrière-arrière-grand-père et leur peuple. Donc, c'était vraiment un acte de foi. Et il faut se mettre à la place un peu de ces Juifs. Ces Juifs qui ont été réduits en esclavage, qui n'avaient qu'un souvenir finalement relativement restreint de leur passé, qui savaient qu'un jour un ancêtre est venu dans ce pays et que cet ancêtre avait connu un Dieu qui avait fait des promesses, mais que eux personnellement n'ont jamais rencontré, ne connaissaient même pas son nom. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un arrive qui s'appelle Moïse et qui leur dit qu'il vient au nom de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, ce Dieu dont ils ont vaguement entendu parler. Et ce Dieu leur fait une promesse, c'est de les libérer, de les sortir de l'Égypte. Il faut quand même savoir que les conditions ont été considérablement durcies dans le pays pour que le peuple soit dans un état d'esprit favorable à quitter ce pays, parce que sinon, jamais de la vie, ils seraient partis. Et on estime que c'est pas tout le peuple juif, c'est pas tous les descendants de Jacob qui sont allés en Égypte et qui se sont multipliés en Égypte, qui ont quitté l'Égypte. Une grande partie est restée en Égypte. C'est un certain pourcentage du peuple qui finalement a décidé par la foi de croire en Moïse et de suivre ce Dieu nouveau qu'ils ont petit à petit appris à connaître, ce Dieu qui a fait la démonstration qu'il était plus puissant que tous les dieux d'Égypte, et en suivant la mémoire de leurs ancêtres, en faisant confiance à cet homme qui était Moïse, et en voyant la puissance de ce Dieu qui se manifestait, ils ont fait un acte de foi. Ils se sont dit « on va accepter de suivre ce Dieu nouveau, on va accepter de suivre Moïse, puisqu'il a été choisi et puisqu'il est porte-parole de ce Dieu. Et nous allons donc quitter ce pays pour aller vers une nouvelle destination. » Mais c'était vraiment un acte de foi. C'était une rupture avec le passé. Vous vous imaginez, ils étaient au milieu d'une nation qui les protégeait, qui les nourrissait. C'est vrai, à la fin, parce qu'ils avaient une particularité, parce qu'ils restaient entre eux, ils ont été utilisés comme des esclaves. Mais souvenons-nous que quand ils étaient dans le désert, beaucoup ont regretté d'avoir quitté l'Égypte parce que, quelque part, ils avaient quand même un certain confort, ils étaient assurés de manger tous les jours, ils étaient protégés des pillards, etc., etc. Et puis ils étaient quand même au milieu d'une structure administrative qui leur apportait un certain nombre de bienfaits, d'une civilisation avancée, parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'était une civilisation avancée par rapport au peuple de nomades, les Amalécites, etc., etc., ces espèces de semi-pillards-là qui traînaient dans le désert. Ben non, eux, ils avaient un peuple qui était administré avec des règles bien établies. Si on avait des problèmes, on pouvait aller dans un juge, un tas de choses comme ça. Et donc, ce n'était pas aussi évident qu'on le croit de quitter ce pays. Un certain nombre de personnes ont cru, et parce qu'ils ont cru, ils ont établi les bases d'une alliance nouvelle. Ils ont établi les bases d'un peuple nouveau. Ce peuple n'était plus construit sur la loi du sang. C'était simplement parce que tu es le descendant d'Abraham, bah, que automatiquement, c'est fait, c'est gagné, tu fais partie du peuple de Dieu. Non! Tu seras intégré dans le peuple du Seigneur à partir du moment où tu lui obéis et que tu acceptes de le suivre. C'est ça qui a fait de ce peuple un peuple particulier. Ce qui s'est passé à Pâques, c'est une rupture avec le passé, ceci est un acte de foi. C'est pas parce qu'ils obéissaient à une loi, parce que la loi n'existait pas encore, hein. Le décalogue et toutes ces choses-là vont venir plus tard, c'est sur le mont Sinaï que le Seigneur donnera des instructions. C'était pendant les 40 ans qu'ils sont dans le désert que Moïse va écrire la Torah. Tout ça, il ne le savait pas, il l'ignorait. Ces choses-là étaient en devenir. Donc, c'était ignorant de tout qu'ils ont pris une décision. Ils ont pris une décision de suivre le Seigneur. C'était vraiment un acte de foi. Et le Seigneur a tenu compte de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment s'imprimer dans notre mémoire. Pécha, c'est une rupture avec le monde d'avant, qui est possible parce qu'on a cru, et uniquement parce qu'on a cru. C'est-à-dire l'homme qui croit que le Seigneur peut le sauver, qui met le sang de l'agneau sur les linteaux de sa porte, quoi qu'il ait fait avant, on ne cherche pas à savoir si c'était un truand, un voleur, quelqu'un qui était travailleur, qui était fainéant, peu importe ce qu'il croyait, peut-être que la majeure partie de ces gens-là ont servi Pharaon loyalement, honnêtement, ils ont cru que c'était le fils de Ra, que toutes les divinités d'Égypte, c'était des dieux puissants qui organisaient le pays. Le Seigneur n'a pas regardé sur ça, n'a pas regardé ce qu'ils ont fait dans leur passé. Le Seigneur, ce qu'il a regardé, eh bien, c'était qu'ils étaient prêts à être en rupture avec ce passé, à quitter l'Égypte et à fonder un peuple nouveau qui serait bâti désormais sur la foi en l'Éternel et sur l'acceptation de sa parole. Et c'est pour commémorer ça que le Seigneur a instauré cette fête qui est la fête de Pâques. Alors, je vais vous rappeler quand même comment cette fête doit être célébrée. Pour ça, on va aller en Exode 12. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte et leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc quelque chose de neuf commence. On commence une nouvelle année. Le Seigneur déclare: à partir de maintenant, vous ne fonctionnerez plus selon les règles égyptiennes, avec le calendrier égyptien, mais on fonctionnera selon des règles nouvelles. Toutes choses à partir de maintenant vont être nouvelles. Une nouvelle année commence. À partir de maintenant, ce seront des jours nouveaux. Ce sera des cycles nouveaux et ces cycles, c'est l'Éternel qui les détermine. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain, des pains azymes et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Quand je dis Pâque, c'est vraiment passer par-dessus. C'était clair pour le Seigneur. Une décision a été prise. Une terrible malédiction va s'abattre sur l'Égypte. Tenez-vous prêts, parce que je vais passer au-dessus de vous pour vous épargner, mais je n'épargnerai pas l'Égypte. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc là, c'est clair, net et précis. Le Seigneur, l'Éternel, va intervenir contre les hommes et contre les dieux de l'Égypte. Cette fois-ci, ça va être clair, net et précis pour tout le monde. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons et vous serez. Où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout levain de vos maisons. Car si quelqu'un mange du pain levé, entre le premier jour et le 7e, il sera retranché du peuple d'Israël. Vous aurez une assemblée cultuelle le premier jour, ainsi que le 7e. Pendant ces 2 jours-là, on ne fera aucun travail, sauf ce qui sera nécessaire pour préparer le repas de chacun. Vous célébrerez la fête des pains sans levain pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour de génération en génération comme une institution en vigueur à perpétuité. À partir du soir du 14e jour du premier mois, vous mangerez des pains sans levain. Jusqu'au soir du 21e jour, pendant 7 jours, on ne devra trouver aucune trace de levain dans vos maisons. Toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou l'un des vôtres. Vous ne consommerez aucune pâte levée dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez que des pains sans levain. Donc, 2 choses. Déjà, on se rend compte que Pécha, c'est pas uniquement l'agneau, mais tout de suite, dans ce qui suit, et c'est très important, il y a une semaine complète qui est intégrée dans la commémoration de cette fête, qui est extrêmement importante, c'est celle des pains sans levain. Pendant 7 jours, vous ne mangerez pas de pain qui a levé. Et c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, parce que si on trouve quelqu'un qui est en train de manger une pâte levée, il sera exclu de la communauté. Donc, pour appartenir à la communauté, ici, en Égypte, ah ben, il faut mettre le sang sur le linteau. À partir du moment où vous faites ça, Dieu vous reconnaîtra et vous considérera comme faisant partie des siens. À partir de ce moment-là, vous faites partie du peuple du Seigneur. Il vous épargnera. Le sang vous épargne. Mais cet acte de foi vous donne aussi le droit d'être appelé saint parce que le Seigneur vous déclare saint parce que vous êtes son peuple. Mais le Seigneur attend une contrepartie. Il dit, ok, si vous mettez le sang sur les linteaux, je vous épargnerai et je vous considérerai comme mon peuple. Mais vous, vous allez devoir faire un effort particulier, c'est que vous allez manger du pain sans levain. Et ça pendant 7 jours, d'un Shabbat à l'autre. Vous allez faire cet effort Et si vous ne faites pas cet effort, je vous retranche. Ce que vous aurez fait avant, avec le sang sur le linteau, je le considérerai comme caduc. Les deux choses sont intimement liées. Je vous accepte et je vous prends comme étant mes enfants pour faire partie de mon peuple. Mais si vous ne m'obéissez pas, si vous obéissez pas à mon ordre, je vous retrancherai. C'est pas quelque chose comme ça à prendre à la légère. Donc déjà là, on se rend compte que le Seigneur commence à instaurer des règles qui sont restrictives, des règles qui sont strictes, parce que le Seigneur veut qu'on obéisse à sa parole. Déjà là, on se rend compte que le Seigneur commence à balayer les vieilles habitudes pour en instaurer des nouvelles. Et si on poursuit, on se rend compte qu'il y en a encore une troisième règle qui vient juste derrière, parce que pécha, en fait, ce sont trois jours qui se suivent les uns derrière les autres. Nous avons donc le sacrifice de l'agneau. À partir du moment où tu sacrifies l'agneau, le Seigneur te reconnaît comme faisant partie de son peuple. Il y a la fête des azimes. Ça, c'est une fête qui commence avec pécha et qui dure pendant 7 jours. Pendant 7 jours, il faut manger des pains azimes. Et si on ne fait pas ça, on est retranché du peuple. Et le troisième jour, c'est la fête de l'omer, la fête des prémices de la moisson, où on fait la première récolte. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire ici en Égypte ou dans le désert, parce qu'il n'y aura pas de récolte. Mais c'est quelque chose qu'on fera quand on sera dans le pays promis, et qu'on sera établi, et qu'on aura des champs. Et donc là, le Seigneur rajoute ceci. Tu couperas une gerbe et tu la porteras au souverain sacrificateur. Et puis, celui-là l'agitera d'un côté et de l'autre. Et ça sera le signe comme quoi tu auras apporté les premiers fruits de ta moisson au Seigneur. C'est donc là, déjà, un courant qui doit passer. C'est-à-dire, moi, je te prends comme mon enfant, à condition que tu m'obéisses, et je pourvoirai pour toi. Mais n'oublie jamais que tu m'es redevable de toute chose. Et donc, la première de toutes tes richesses, c'est-à-dire les premiers fruits de ta moisson, tu me l'amèneras. Donc là, nous avons trois étapes qui se suivent les unes derrière les autres. Premier jour, sacrifice de l'agneau. Deuxième jour, pain azime. Troisième jour, le décompte de l'omer, les prémices de la moisson. Pécha, c'est ça. C'est un ensemble. C'est trois choses qui se succèdent. Et elles sont indissociables les unes des autres. Nous savons aujourd'hui, maintenant que le temps a passé et que la connaissance a grandi, que ces choses-là, ces enseignements, ces ordres, ces commandements du Seigneur, l'Éternel les a voulus afin qu'il nous enseigne et qu'il nous fasse comprendre ce qu'il allait faire plus tard quand Jésus-Christ viendrait. L'idée du sacrifice de l'agneau, l'idée d'être affranchi des dieux étrangers, d'être affranchi des contraintes de l'esclavage, d'être affranchi du mal et du péché, ces choses-là, ces enseignements-là, serviront plus tard à comprendre ce que le Messie ferait lorsqu'il viendrait sur terre. C'est un enseignement, c'est une ombre du passé qui n'est finalement que l'ombre portée d'une lumière future. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que beaucoup plus tard, lorsque le Messie viendra, lorsque le Mashiach viendrait, il accomplirait parfaitement et en totalité ce qui n'est fait que partiellement le jour de Pécha. Pourquoi ? Parce que lorsque le Mashiach viendrait, il libérera totalement l'humanité. Il ne libérera pas uniquement un peuple de l'asservissement d'un pays, d'une nation, là en l'occurrence l'Égypte, mais il libérera totalement et complètement l'humanité entière de tout asservissement, c'est-à-dire du mal en général, de ce qu'il gouverne, le diable qui gouverne tous les royaumes et toutes les nations. Et donc, il y a une libération totale et complète qui va être effectuée en Jésus-Christ par son sacrifice, parce qu'il va faire de nous un peuple nouveau, un peuple saint, qui entre dans son royaume, et son royaume n'est pas de ce monde. Jésus-Christ, par son sacrifice, le jour de Pâques, finalement, nous fait rentrer dans le royaume du Seigneur, nous permet d'être acceptés par le Seigneur. La malédiction qui repose sur le monde, celle-là, elle n'a plus de pouvoir, elle n'a plus d'autorité sur nous. Nous sommes libérés de cette malédiction. Ça, c'est l'idée générale du sacrifice de l'agneau. C'est facile à comprendre. Il suffit de regarder ce que le Seigneur il a fait avec l'Égypte. Il suffit de comprendre comment il a agi avec son peuple à ce moment-là et de le transposer dans le futur avec le sacrifice de Jésus. Jésus s'est donné volontairement en sacrifice comme un agneau parfait, sans tache. Et grâce à ce sang qui est versé, il libère les hommes de leurs fautes, il libère les hommes de tout esclavage, il libère les hommes de toute contrainte pour les faire rentrer dans un nouveau pays, dans un nouveau royaume. Mais comme on l'a vu, Pécha, c'est pas que ça. Pécha, c'est pas uniquement le sacrifice, c'est pas uniquement le sang, c'est pas uniquement un acte de foi qui reconnaît que par le sang, on peut être sauvé. C'est un ensemble de trois fêtes, et on se rend compte qu'en lisant Exode 12, il y a un grand morceau qui est consacré au Pâsim. Il est demandé aux Juifs, s'ils veulent fêter Pâques, d'obéir à un ordre strict qui est d'éliminer tout levain. Tout le levain doit disparaître de la maison et pendant 7 jours, ils ne mangeront que du pain azim. Pourquoi le Seigneur demande ça? Pourquoi est-ce que le Seigneur il a cette exigence-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? En fait, oui. Et ça, pour le comprendre, il faut se projeter encore une fois dans le futur. Il faut une fois de plus regarder ce qui se passe du temps du Machia pour comprendre exactement quel est le sens de cette symbolique. Pourquoi le Seigneur il a instauré cette règle-là? On sait, au travers des prophètes, que le Machia est comparé souvent au germe. Ce qu'on pourrait dire une descendance, comme un germe de blé, comme une semence de céréales. Il le compare à cela. Je vous enverrai, mon serviteur, le germe, le tsema en hébreu. Et c'est l'image du Machia, c'est l'image de cette semence pure que le Seigneur il envoie dans le monde. Cette semence qui permet de nourrir les hommes. Combien de fois le Seigneur s'est lui-même comparé à un pain de vie? Et combien de fois il a dit « La parole de l'Éternel, c'est une nourriture. » Donc, lui-même est venu dans le monde en tant qu'homme, en tant que semence divine, en tant que tsema, pour nourrir les hommes et les abreuver de sa parole, pour les nourrir de sa parole. Parce que sa parole, c'est aussi une nourriture pour l'âme. Et donc, Yeshua, le Machia, quand il est venu, quand il a été donné aux hommes, c'était pas uniquement pour leur apporter le salut par le sacrifice de son sang, mais c'était aussi pour les nourrir d'une nourriture céleste, d'une nourriture divine qui allait leur apporter la vie éternelle. Il ne s'agit pas seulement de sauver les hommes. Et il dit, voilà, je te pardonne les fautes que tu as faites, mais il faut aussi, une fois ce geste accompli, que les hommes puissent rester en vie et puissent perdurer, puissent continuer dans leur existence à rester dans le royaume de l'Éternel, puissent rester dans la présence du Seigneur. Et pour cela, il faut les enseigner, il faut les nourrir, il faut leur apprendre ce qu'il faut faire justement pour rester dans la présence du Seigneur. Il faut leur apprendre, il faut leur enseigner les méthodes pour rester en vie spirituellement, de ne plus retourner à leurs conditions antérieures. Il faut apprendre aux hommes, voilà, ce qu'on attend de toi, c'est un changement d'existence. Moi, je te libère du force du mal, je te libère de la mort qui reposait sur toi, je te donne une vie nouvelle, mais il va falloir que tu changes de vie, il va falloir que tu changes d'existence. Il faudra plus que tu écoutes les paroles mensongères, il faudra plus que tu trompes ton prochain, il faudra plus que tu voles, il faudra plus que tu fasses ci, il faudra plus que tu fasses ça. Il faut vraiment un changement d'existence. Il faut que ton existence soit sainte. Il faut que tu deviennes toi-même identique à cette semence qui est la semence divine. Et c'est là qu'on est déjà projeté dans le troisième jour. Les prémices de la moisson, comme le dit la parole, la troisième fête, c'est la fête des prémices de la moisson, c'est le Messie, c'est des prémices, c'est la première des choses. Mais derrière vient toute la moisson. Et la moisson doit être identique au grain initial. C'est-à-dire, on prend le premier grain, la première gerbe, on la présente devant l'Éternel en disant, voilà, ça c'est la première des choses. Je te la donne, je te l'offre, parce que c'est celle qui m'est la plus précieuse. Mais derrière, c'est toute la moisson qui va arriver. Et cette moisson est identique aux prémices. Et c'est exactement ce que veut le Seigneur. Le Seigneur, eh bien, il a envoyé un germe, il a envoyé un grain. Ce grain a donné une première gerbe, puisqu'il a poussé, il s'est multiplié. Et derrière ça, c'est toute une moisson qui suit. Et donc, ce que le Seigneur il nous enseigne là, c'est vous qui avez été sauvés, vous qui avez été pardonné par le sang d'un juste. Il faut que vous deveniez comme ce juste, que vous revêtiez la même nature que ce juste. Ce juste, eh bien, c'était une bonne semence. C'est le même mot de semence veut aussi dire postérité, veut aussi dire derrière, générations qui vont venir. Donc, cette semence juste attend d'être multipliée, de se répandre dans le pays. C'est exactement ce qu'attend le Seigneur. Le Seigneur, il attend à partir d'un grain, avec que ce grain multiplie selon la même nature pour finalement donner un peuple nombreux. Un peuple nombreux qui vit selon sa parole, qui se nourrit de sa parole, qui est comme sa parole et qui devient une parole vivante. Exactement comme le Mashiach est devenu une parole vivante, cette semence qui est donnée, ce tsema qui est donné, va se multiplier, va devenir des prémices qui annoncent une moisson future. Tout ça, c'est pécha. Pécha, c'est un ensemble. C'est pas une fête avec le sacrifice de l'agneau, mais c'est les pinzim qui annoncent les premières gerbes, qui elles-mêmes annoncent une moisson future. Et ça, c'est à projeter aujourd'hui dans notre temps, où on voit le résultat de cette œuvre-là. Si nous, nous existons, si aujourd'hui, moi, je parle, et si vous vous écoutez, c'est parce que vous êtes le résultat de cette moisson. Vous n'êtes pas les prémices, mais vous êtes la moisson. Mais vous avez la même nature que le grain originel. Ce grain originel, c'était Christ. Et il s'est reproduit, et reproduit, et reproduit encore pour donner cette moisson qui est la moisson de la fin des temps. Le peuple juif détruit toute pâte levée qui se trouve dans sa maison en la brûlant. Nous trouvons là aussi un symbolisme. Le levain, synonyme de péché, se dit en hébreu « hametz ». Et la semence de Dieu, se dit « tsema ». Si vous examinez le mot en hébreu, vous remarquerez qu'en permutant la première et la dernière lettre du mot, Hametz, vous obtiendrez le mot tsema. Il y a donc un contraire. Et c'est exactement ça l'enseignement de la fête des azim, des pains azim. Pourquoi le Seigneur veut qu'on nettoie sa maison? Pourquoi le Seigneur veut qu'on élimine le froment? Mais parce que c'est un enseignement qui a à prendre dans un sens spirituel. C'est dans le verbe qu'il faut puiser la compréhension de ce geste. Ce n'est pas un simple rituel qu'on s'amuse à faire comme ça. Pourquoi le Seigneur, il attend qu'on nettoie toute sa maison? Pourquoi le Seigneur veut qu'on brûle jusque les dernières traces de pâte levée? Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas qu'on soit obéissant à un rituel, mais c'est qu'on cherche à comprendre et qu'on se saisisse de cette révélation pour l'appliquer dans notre vie. Or, c'est dans le verbe, en analysant, en étudiant et en comprenant le verbe de l'Éternel, qu'on peut grandir spirituellement. Si on comprend que le sacrifice de l'agneau, ça représente le sacrifice de Jésus sur la croix, il faut aussi qu'on comprenne que l'élimination du levain, ce n'est rien d'autre que d'éliminer le mal, ce n'est rien d'autre que d'éliminer le péché de notre vie, afin que nous-mêmes, nous nous transformions, non plus en Hametz, mais en Tsema. On inverse le mot, on le transforme. Et cette transformation est possible grâce à Jésus-Christ. Parce que Jésus nous dit, si vous mourrez en moi, si vous mourrez en moi sur la croix, vous ressusciterez aussi avec moi. C'est le principe même fondamental et élémentaire de ce que représente un simple grain de blé. Je vous donne un grain de blé, si vous le regardez comme ça, si vous le brisez, il ne va strictement plus rien en rester. Mais par contre, si vous prenez ce grain de blé et que vous le mettez en terre, il va mourir à lui-même, il va perdre sa nature, il va se transformer. Ce qui avant était une petite boule, brusquement, ça va devenir un brin d'herbe. Ce brin d'herbe va se transformer en épi, et cet épi, à un moment donné, va renaître de nouveau sous sa forme originelle. Et c'est ça le miracle de la rédemption. C'est ça le miracle de la Pâque, qui est enseigné au travers de ces trois jours de fête qui se suivent. Vous avez un sacrifice, vous avez une mort, mais derrière, vous avez aussi une transformation. Vous êtes mort à vous-même, mais vous êtes destiné à être racheté, vous êtes destiné à être transformé en quelque chose de neuf. Il faut que votre nature change, il faut que votre personnalité se retourne. Vous mourrez à vous-même, vous mourrez à votre ancienne vie pour renaître sous une forme nouvelle. Du Hametz, vous allez devenir un Tsema, vous allez devenir quelque chose de neuf, vous allez ressembler à Christ, vous allez être comme lui. Et ça, c'est possible parce que Dieu a tout prévu pour que cette chose-là puisse se faire. Et après ça, gloire à Dieu, ça peut se multiplier. À partir du moment où cette transformation s'est opérée, à partir du moment où on s'est débarrassé dans notre vie du levain, ce levain qui est le péché, ce levain qui est le mal qu'on peut connaître et qu'on peut faire, à partir du moment où on se retourne et qu'on dit « je ne veux plus agir de cette manière, je ne veux plus faire le mal », et si vous écoutez la parole de Dieu, si vous la prenez pour vous-même, vous transformez dans ce produit originel que Dieu a mis dans le sol. Et vous devenez vous-même, après ça, des enfants de Dieu. Et vous pourrez vous multiplier et vous pourrez croître. Comme on l'a lu, à un moment donné, on l'a vu en Ésaïe 53. Rappelez-vous que le Seigneur a brisé son sein. Vous vous souvenez de ça? Il l'a humilié, il l'a brisé, mais pas pour lui-même, pour nous, à cause de nos fautes. Il est mort. Il a connu le tombeau. Et comment est-ce qu'il continue le Seigneur dans Ésaïe 53? Et pourtant, il connaîtra une postérité nombreuse. Comment quelqu'un qui est mort peut-il connaître une postérité nombreuse? Il ne s'agit donc pas, là, en l'occurrence, d'une descendance directe par le sang, mais il s'agit vraiment d'une descendance par l'acceptation de son geste et de sa parole. C'est parce qu'on a foi en lui, parce qu'on a foi dans son sacrifice, qu'on croit dans son geste, qu'on croit dans ses paroles, que nous sommes comme lui, que nous descendons de lui, que nous sommes identiques à lui. Nous sommes donc de sa postérité parce que nous avons cru en lui. J'ai cru, j'ai changé de vie, je lui ressemble. C'est ça le miracle de Pécha. C'est ça l'enseignement de toutes ces fêtes qui se succèdent les unes derrière les autres. C'est ça ce fameux pain azyme. Pourquoi le Seigneur nous demande de faire quelque chose qu'on ne fait pas pendant le reste de l'année? Pourquoi brusquement il faut qu'on mange des pains sans le vin? Ben non, parce qu'il faut le chercher dans le Verbe. Il faut chercher ça dans la parole du Seigneur. Comprendre ces sens qui s'inversent, qui se transforment. Du Tsema en Hametz. On prend simplement les lettres et on les retourne. C'est ça le sens profond. Le Seigneur veut qu'on raisonne comme ça. Le Seigneur veut qu'on réfléchisse de cette manière. La fête de la gerbe des prémices, bien que faisant partie de la Pâque, n'est que la troisième étape qui a son importance dans l'histoire prophétique du plan de Dieu. En effet, ce troisième jour, qui est selon l'Écriture le lendemain du Shabbat, donc pour nous, ça serait un dimanche, le souverain sacrificateur dans le temple devait agiter de côté et d'autre une gerbe prémisse de la moisson. Ici, Le symbole est évident quand on examine les faits tels qu'ils se sont produits. Yeshua, Jésus, est mort le vendredi vers 15h, puis est enterré rapidement à cause de la Pâque qui allait commencer. Il est resté dans le tombeau pendant le Shabbat et le lendemain du Shabbat, tandis que dans le temple, le souverain sacrificateur agitait la gerbe, qui est un type de résurrection, le Messie Yeshua sortait triomphalement du tombeau, le troisième jour exactement comme le Lévitique le disait. Cette précision dans l'accomplissement des décisions divines, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science des dieux, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Ça, on peut le lire dans Romains. Et c'est Paul qui s'exprime. Paul a donc vu la grandeur et la sagesse de Dieu. Il a prévu toutes choses déjà dans la fête de Pécha. La fête de Pécha, on pouvait déjà comprendre le plan ultime de Dieu, le plan ultime de rachat de l'humanité. Cette résurrection de Yeshua a été prophétisée par David qui a dit au psaume 16, 9, « Mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Il est évident que David ne parlait pas de lui-même, puisque, comme tous les humains, son corps s'est désagrégé en poussière après sa mort. Mais c'est la résurrection du Messie qu'il a annoncé prophétiquement. Et plus de 500 personnes ont vu de leurs yeux le Seigneur après sa résurrection. Ainsi, la troisième étape du croyant, après avoir été lavé de ses péchés et commencé une nouvelle vie de consécration et de sainteté, sera donc de devenir un homme nouveau, en quelque sorte ressuscité. Une nouvelle création après la mort du vieil homme. Le Messie Yeshua a dit, parlant de lui-même, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Les fruits étaient symbolisés par les épis de la gerbe que le souverain sacrificateur avait prophétiquement agité le troisième jour de la Pâque. Il en est de même pour le croyant. Après être mort à lui-même, il naît de nouveau pour une vie nouvelle. C'est ainsi que le dit Paul, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous avons donc là bien clairement établi que la fête de Pâques est un ensemble totalement et complètement cohérent qui finalement recoupe tous les éléments de la vie d'un chrétien. La justification par la foi, la sanctification, et puis après ça, une vie nouvelle qui est appelée à se multiplier par l'action du Saint-Esprit. Et c'est vraiment un but à atteindre, parce qu'au bout de cette multiplication, au bout de cette fête qui démarre avec le décompte de l'Homère, il y a quoi ? Il y a la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte ? À la Pentecôte, eh bien, il y a le Saint-Esprit qui est venu. Nous avons donc là un cheminement de vie, une espèce de schéma directeur que le Seigneur a défini une bonne fois pour toutes, pour toute l'humanité. Si vous voulez être sauvé, ce n'est pas compliqué. Vous suivez le cycle de mes fêtes. Vous accomplissez exactement ce que j'attends et vous serez sauvé. Vous serez sauvé par la foi, vous serez justifié. Sanctifiez-vous et derrière vous aurez le baptême du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. C'est tout l'évangile qui est maintenant résumé au travers des fêtes de l'Éternel. Il suffit de les analyser de manière somme toute relativement simple. On peut naturellement pousser dans les Écritures, dans la recherche du Verbe, on pourrait extraire une multitude de passages qui ne feraient que souligner ce que je viens de dire maintenant. Paul en a parlé, les prophètes en ont parlé, les psaumes en parlent de tous les côtés. Jésus lui-même, à un moment donné, quand il s'adressait aux pharisiens, il disait « Moïse a parlé de moi ». Alors ça, c'est, vous vous rendez compte un peu, Jésus, il est dans le temple, il a en face de lui les pharisiens qui sont ses ennemis de toujours. Et alors il lui reproche ceci et cela. Il a dit « Mais pourquoi vous me reprochez ceci et cela ?» Puisque Moïse lui-même parle de moi. Curieux, parce que quand on lit la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, vous ne trouverez pas une seule fois mention de Jésus. Bien sûr que non. Parce qu'en fait, quand Jésus fait allusion à Moïse et à ce qu'il a écrit, et lorsqu'il parlait de lui, c'est de ces choses-là qu'on vient de traiter maintenant qu'il parlait. C'est du sacrifice de la Pâque. C'est du pain sans levain. C'est des gerbes, des prémices. C'est toutes ces choses symboliques. Toutes ces choses symboliques n'ont pour autre but que d'enseigner le peuple sur ce que ferait le Mashiach le jour où il viendra sur terre. L'établissement du tabernacle, comment il est fait. Le tabernacle est rempli de symboles. Ah ben, tous ces symboles, sous une forme ou sous une autre, nous ramènent systématiquement vers le Mashiach. Vous avez la porte d'entrée derrière, vous avez l'autel avec le sacrifice, vous continuez, vous avez la cuve pour faire les ablutions, vous continuez, vous avez le lieu saint et vous continuez encore, vous avez le lieu très saint. Ce sont chaque fois des étapes dans la vie du chrétien. On peut suivre ces mêmes étapes, comme on vient de le faire maintenant avec la fête de Pâques, on pourrait établir le même cheminement en pénétrant dans le tabernacle. Donc véritablement, et vraiment, et on peut le croire, quand Jésus dit « Moïse a parlé de moi », c'est pas en tant qu'individu qui parlait de lui, mais c'est par rapport à sa fonction, par rapport à sa nature divine. La divinité, l'éternel se révèle au travers de ses symboles, au travers de ses fêtes, au travers du tabernacle et plus tard du temple. C'est pour ça que Jésus pouvait se permettre de dire « Mais détruisez le temple, ça c'est pas un problème. Moi je vais le relever en 3 jours. » Pourquoi ? Parce qu'il s'identifiait au temple. Il dit « Vous pouvez me tuer dans 3 jours, ah ben, je serai ressuscité. » Donc c'est toute la loi de Moïse qui était exprimée dans l'homme. C'est tout ce que Moïse a fait, tous ses gestes, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a enseigné, qui finalement a pris forme humaine en Yeshua. Le sens du sacrifice, le sens du pardon, la sanctification, l'esprit répandu qui devait venir à la Pentecôte. Jésus a dit, c'est extrêmement bénéfique pour vous que je m'en aille. C'est extrêmement bénéfique pour vous que finalement j'ai été sacrifié sur la croix, parce que ça vous permet d'être racheté. Mais ça vous permet aussi de recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, toutes choses ont été annoncées, toutes choses ont été planifiées, toutes choses ont été expliquées pour qu'elles soient accomplies un jour en Yeshua. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui reste toujours encore vrai aujourd'hui. Rien, mais absolument, mais pas une lettre a été annulée. C'est toujours encore d'actualité, c'est toujours encore vrai. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'obéir au Seigneur. Quand on nous dit... Après tout, faire des fêtes, c'est qu'on le fasse un jour, qu'on le fasse un autre, c'est pas tellement important. Mais bien sûr que si, c'est important. Parce que le Seigneur a établi certaines règles, non pas pour qu'on le suive bêtement, mais pour qu'on réfléchisse sur ces choses-là. Quand on est dans une maison, et qu'on nettoie la maison, et qu'on en enlève toute trace de levain, on a le temps de réfléchir à ces choses-là. Bah oui, le Hametz, le Tzema, toutes ces choses-là, bah oui, effectivement, je nettoie ma maison, je me purifie, je me sanctifie parce que je veux honorer le Seigneur, parce que je veux participer avec lui à la même pâte, je veux participer avec lui au même corps. Parce que, à quelque part, ce pain sans levain, c'est-à-dire ce pain parfait, ce pain sans froment, ce sont des grains brisés. Mais à partir de ce moment-là, c'est déjà plus Christ tout seul, mais c'est un ensemble, c'est un corps cohérent. Donc le Seigneur nous appelle déjà à faire partie d'un corps, à le rejoindre dans ce sacrifice, à le rejoindre dans cette pureté. Et comme ça, on peut réfléchir, on peut raisonner et on peut avancer dans la compréhension des choses. C'est ça, Pécha. C'est ça, les parasites. Pécha est un ensemble indissociable qu'on doit prendre comme un tout. Et pas uniquement se contenter de faire un repas, comme les Juifs, ils font le repas du Seder. Et puis ils ont tout un rituel dans ce repas. Problème, c'est que comme la compréhension des choses pour eux s'arrête avec l'Ancien Testament, avec le Tanakh, il y a donc comme un mur d'incompréhension qui s'est dressé. C'est-à-dire, ils observent le rituel à la lettre, ils suivent les recommandations du Seigneur à la lettre, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. C'est une inconnue. Si le Seigneur nous demande de faire un certain nombre de choses, mais pourquoi le Seigneur nous demande de faire ces choses-là? Bon, on comprend bien qu'on perpétue le souvenir de la sortie d'Égypte, parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur nous a affranchis de l'esclavage. Mais pourquoi aujourd'hui encore perpétuer le souvenir d'une semaine complète à ne plus manger que du pain azim? Pourquoi nettoyer la maison de tout le froment? Ça sert à quoi? Ça n'a plus de sens. Je dis, pourquoi est-ce que il faudrait aujourd'hui encore secouer une gerbe de blé et puis aujourd'hui on se soucie plus d'aller dans les champs, hein, parce que moi je travaille au bureau ou bien je suis mécanicien automobile, donc ces choses-là, c'est des vieilles lunes, ça appartient au passé. Certains donc font ces choses-là, c'est parce qu'ils sont attachés à la parole, parce qu'ils sont attachés à la tradition, donc ils le font par habitude, mais ne savent pas pourquoi ils le font. Et c'est presque amusant de voir comment les Juifs observent la tradition et la manière dont aujourd'hui ils l'observent. Parce qu'en fait, ils rendent grâce à Yeshua sans même s'en rendre compte. Pour terminer, je vais vous inviter un petit peu à suivre une soirée de Pécha dans une famille juive traditionnelle. Yeshua et ses disciples, Yehudim Meshihim, les Juifs messianiques du début de notre ère, auraient été, selon toute vraisemblance, à l'origine du déroulement actuel du Seder de Pécha, tel qu'il est actuellement célébré dans toutes les communautés juives du monde. Alors le Seder de Pécha, c'est un ordre et rituel qui est donné aux familles où elles suivent un certain nombre de rites qui se font le soir du repas de Pâques. Selon cette même hypothèse que nous étayons plus loin, il est fort probable que ce soit bien Yeshua lui-même et ses disciples qui soient à l'origine du partage du vin et du pain que toute famille juive célèbre le vendredi soir lors de la fraction du pain levé et aussi lors du Seder de Pécha avec les pains sans levain et où l'ordre du partage du vin est inversé. Ce n'est qu'à partir d'une certaine époque que les changements se soient vraisemblablement opérés. On ne commençait à parler véritablement de liturgie juive qu'à partir du 9e siècle de notre ère. Le rituel du Seder s'est construit lentement et la version de la Haggadah que nous connaissons actuellement est une compilation des textes de différentes origines dans le temps et l'espace et dont nous devons la compilation définitive aux Géonim, les sages rabbiniques du début du Moyen-Âge, à Babylone, approximativement entre 650 et 1250. Donc là, nous avons une chose qui s'est construite selon une réflexion qui s'est faite dans le temps et qui a duré jusqu'au Moyen-Âge. Et là, quand on parle de Haggadah, eh bien, ce sont des textes qui sont utilisés aujourd'hui par les Juifs pour expliquer ce que fait le Seigneur. La Haggadah de Pécha est un texte en hébreu ancien utilisé pour la cérémonie du Seder durant Pécha, la Pâque juive. La Haggadah est ancienne. Elle date de l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire environ 2 millénaires. La Haggadah raconte l'histoire de l'exode d'Égypte et explique quelques pratiques et symboles de la fête. Son histoire retourne à la période avancée du Talmud, c'est-à-dire 100 ans après Jésus-Christ. D'une perspective éducative, la Haggadah a été ordonnée afin d'attirer l'attention des enfants. L'enfant demande pourquoi cette nuit est différente des autres nuits, et les parents répondent. Donc là, nous avons un certain nombre de rituels, un certain nombre de choses qui vont être effectuées par les Juifs et qui sont la résultante d'une réflexion qui s'est faite sur une très longue période. Mais qui va trouver, finalement, un aboutissement, qui va trouver une finalité à peu près au Moyen-Âge. En plus des ingrédients traditionnels placés sur la table,
On trouve une serviette dans les plis desquelles sont cachés trois morceaux de pain azim, qu'on appelle des matzot. Un morceau en haut, un morceau au milieu et un morceau en bas. Le père de famille prend le morceau du milieu qu'on appelle afikomen. Ce nom n'est pas hébreu, mais il est grec. Il est l'aoriste, c'est-à-dire l'équivalent de notre passé simple du verbe afinomen. Et ça veut dire « il vient ». Le père cache ce morceau quelque part autour de la table et demande à son fils de le trouver. Quand celui-ci l'a finalement trouvé, on brandit l'afikomen avec des exclamations de joie. On peut s'étonner d'une telle coutume pendant les repas de Pécha. D'abord, pourquoi trois pains? Pourquoi lui donner un nom grec quand tous les autres éléments ont des noms hébraïques? Pourquoi l'appeler « il est venu » Pourquoi le cacher? Pourquoi est-on joyeux de le retrouver? Tout cela est évidemment mystérieux. Il faut remarquer que cette pratique ne vient pas des Écritures, mais de la tradition. L'encyclopédie judaïque dit que l'afikomen désigne un dessert. Mais ce mot grec n'a jamais signifié dessert. De plus, un morceau de pain sans levain ne peut être appelé véritablement un dessert. Il a forcément une signification symbolique comme pour les autres éléments. La seule explication possible est que ce pain fait référence au Messie. Il est venu, c'est le nom qu'on donne à ce pain azim, ce nom grec. Si on l'appelle comme ça, c'est qu'il est déjà venu sur terre. Avant la venue de Yeshua, on ne parle pas le grec en Israël. Ce n'est donc qu'après sa venue qu'on a retrouvé ce mot dans la tradition juive. Le fait de cacher cet afikomen symbolise la mort et la disparition temporaire et étonnante du Fils de Dieu. Le fait que la cachette soit aisée à trouver peut symboliser le fait que le Messie n'est pas mystérieux et se laisse facilement trouver. Le retrouver avec joie peut symboliser sa résurrection et la victoire qu'elle représente. Les trois pains sans levain, symbole du péché, symbolisent l'union du Père, du Fils et de la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Voilà, quand ils disent symbole du péché, ce serait plutôt symbole de la pureté. Les trois pains sans levain, c'est le symbole de la pureté. Et ils symbolisent l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela reste surprenant et mérite d'être éclairci. Il est donc clair qu'une majorité d'enfants d'Israël est cru en Yeshua, le Yeshua de Nazareth, et a incorporé ce symbole dans l'afikomen pour transmettre leur foi. Alors que l'on enseigne dans certains milieux que Yeshua aurait accompli toute loi de Moïse, cette tradition reprise au cours des siècles par les Juifs rabbiniques prouve le contraire. Dans la célébration du Seder de Pécha, la tradition rabbinique vient en grande partie se greffer sur Yeshua lui-même et non l'inverse. Le chef de famille élève bien haut le plateau contenant les matzot et le fait passer trois fois au-dessus de la tête des membres de l'assistance. Après cela, il prend le pain azim du milieu, le Lévi, qui est l'objet d'une attention toute particulière. Cette matza est bénie, soulevée pour bien la montrer aux assistants, puis finalement partagée en deux parties inégales. La plus petite est remise dans le plat entre deux serviettes blanches. La plus grosse est enveloppée dans une serviette immaculée, puis posée sur l'épaule du chef de famille, qui la porte comme si c'était un lourd fardeau. Ensuite, elle est cachée, soit à l'extrémité de la table sous la nappe, soit sous un coussin à proximité du chef de famille. Cette partie de la matza ne réapparaîtra qu'à la fin du seder pour être le premier aliment du repas. Matza, c'est le singulier de matzot. Matzot, c'est les pains azim. Cette partie de la matza s'appelle afikomen, seul mot qui ne soit pas d'origine hébraïque parmi tous ceux qui sont prononcés pendant le repas de Pâques. Ce mot, d'origine grecque, signifie littéralement « je suis venu ». Cette expression est à elle seule tout un symbole. « Je suis venu au nom de mon Père », a dit Jésus. « Si vous croyez en Moïse, en qui vous avez mis toute votre espérance, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. » Yeshua est la matza rompue. Il a été annoncé par le prophète Ésaïe dans le chapitre 53 de son livre. Il faut se rappeler la parole surprenante de Yeshua la nuit où il rassembla ses disciples dans la chambre haute pour prendre avec eux le dernier souper de Pâques. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tout a été tellement singulier dans ce repas avec Yeshua. Les disciples ne se doutaient pas qu'ils vivaient des minutes d'éternité. Celui que la liturgie juive appelle de ce nom mystérieux d'Afikomen est déjà venu se livrer de son plein gré pour être immolé tel un agneau innocent et sans tache, afin que nos péchés soient effacés et que nous soyons purifiés. Ainsi, les Israélites annoncent à leur insu, lors de chaque céder annuel, la mort du serviteur de l'Éternel, le Saint et le Juste. Alors on se rend compte que les Juifs ont dans leur mémoire collective inscrite une pratique qui vient des disciples de Yeshua. Parce que le fait qu'on utilise un mot grec, ça ne peut avoir qu'une seule signification, c'est que c'est quelque chose qui a été retiré des écrits qui ont été faits après la mort de Yeshua. Parce que les intellectuels, le langage des intellectuels, le langage des lettrés du temps des Romains, c'était le grec. C'est le grec qui était utilisé, ce n'était pas le latin. Et donc, c'est pour ça qu'on a toutes les épîtres, et c'est pour ça qu'on a les évangiles, toutes ces choses-là, ont été écrites en grec. Parce que c'était le langage des intellectuels, c'était le langage des lettrés. Et bien aujourd'hui, nous avons des juifs qui prétendent ne rien vouloir savoir de Jésus, qui prétendent ne rien avoir à faire avec Jésus, et qui pourtant perpétuent une tradition qui n'a strictement rien à voir avec les traditions rabbiniques habituelles, qui n'a strictement rien à voir avec quelque chose qui est de près ou de loin à voir avec ce qu'on faisait traditionnellement à Pessah. Ils ont donc intégré dans leur rituel une pratique qu'ils font maintenant traditionnellement, génération après génération, sans même ne plus savoir d'où elle vient. Mais tout simplement parce qu'à un certain moment de leur histoire, un nombre de juifs toujours plus nombreux a cru un temps à Yeshua et ça s'est diffusé à travers toute la communauté qu'il a pris pour elle-même, qu'il a intégré dans le céder de Pessah et qu'il a conservé. Et après ça, au fil du temps, la mémoire de cette pratique, l'explication de ce geste s'est perdue. Mais elle s'est perdue pour une raison qui est extrêmement simple, c'est qu'il leur manque une partie de la Bible. S'ils avaient conservé, comme l'ont fait les disciples de Jésus-Christ, parce que n'oublions pas que les premiers disciples du Christ étaient des Juifs, s'ils avaient conservé l'intégralité de la parole de Dieu, ils comprendraient aujourd'hui la symbolique de ce geste qu'ils pratiquent. C'est-à-dire, en fait, c'est Jésus-Christ qu'ils honorent le jour de Pâques. Vous vous rendez compte? Les Juifs font ça spontanément, font ça par tradition, alors que nous, les chrétiens, nous ne respectons pas le jour, nous ne respectons pas les traditions, et on va s'amuser avec des lapins, on va s'amuser avec des œufs de Pâques, on va s'amuser avec un tas de trucs, à une date qui n'est absolument pas celle qui a été prescrite par le Seigneur. En plus, par-dessus le marché, de toute façon, la sanctification aujourd'hui, ce n'est plus un souci chez les chrétiens. Alors que les Juifs qui ne connaissent pas Christ l'honorent. L'honorent en ce jour de Pâques. Se rappellent à son souvenir. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus-Christ, mais par contre, symboliquement, il se rappelle de son geste. Il l'identifie à ce qui se passe à Pâques. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Si ce peuple a pu traverser les siècles, si ce peuple a pu surmonter toutes les difficultés, c'est aussi qu'à quelque part, le Seigneur leur a fait grâce, comme ça. Je dis, effectivement, vous vous êtes détourné de moi. Effectivement, vous avez oublié mon nom. Mais moi, je vous fais quand même grâce. Parce qu'à quelque part, sans même vous en rendre compte, vous êtes quand même de ma semence, vous êtes quand même de ma parole, vous attachez quand même à conserver la mémoire de mon nom, vous attachez quand même à conserver le geste que j'ai effectué. Et si beaucoup ont pu être sauvés, si beaucoup ont pu être préservés, c'est certainement aussi à cause de ça. Donc là, on peut comprendre un petit peu l'étendue de l'amour de Christ. C'est-à-dire même ceux qui l'ont rejeté, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui, à quelque part, n'ont rien voulu de lui, eh bien, il s'est quand même invité chez eux à leur table le jour de la fête la plus importante. Et ça, c'est quelque chose qui était important, parce que ça s'en a certainement sauvé beaucoup. Donc Jésus-Christ vient, s'invite chez les Juifs à chaque fête de Pâques, et ils ne le savent même pas. Et donc nous, qui le connaissons, a fortiori, nous devons conserver avec force la mémoire de cette fête afin de nous rappeler pourquoi le Seigneur l'a instituée et surtout mettre un nom sur tous les symboles pour les ramener à leur sens premier, à leur vérité première et pouvoir le proclamer très haut. Voilà ce que représente Pessah. Voilà le sens de cette symbolique. Et qu'on n'oublie jamais, qu'on le perpétue et qu'on le transmette autour de nous. Seigneur Jésus, nous avons survolé ta parole, nous avons pénétré le sens des symboles, nous sommes rentrés dans tes jours, afin qu'ils nous enseignent, afin que nous comprenions qui tu es, que nous comprenions le sens de ton message. Puisses-tu, Seigneur, éclairer aussi ton peuple, afin que lui aussi comprenne le sens de ton verbe, que lui aussi comprenne le sens de ton message, et qu'il devienne lui aussi enfant de Dieu, parce qu'il t'a reconnu comme étant son Machia, parce qu'il t'a reconnu comme étant la semence véritable. En ton nom, Yeshua.